Radio Campus 88.3 FM
www.orléans.radiocampus.org.
Radiophonique de Radio Campus.
Ondulation par intelligence artificielle.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans, vous êtes bien dans Écoute ta fac, première édition spéciale de cette semaine de notre festival Ondulation, le festival de la création radiophonique et numérique de Radio Campus. Cette semaine, on a installé notre studio au Bouillon, c'est depuis le Bouillon, le centre culturel universitaire Orléans, de l'Université d'Orléans, que je vous parle. Beaucoup de monde autour de la table avec moi. Dans quelques secondes, on retrouvera comme tous les mardis Lorraine pour l'agenda de ce Bouillon. De l'agenda culturel de la semaine du Bouillon qui va beaucoup tourner autour d'Ondulation, mais pas que. Ondulation, vous découvrirez le programme dans quelques minutes à notre antenne et également d'ores et déjà sur notre site internet orléans.radiocampus.org. Mais pour l'heure, on fait cet agenda du Bouillon avec toi, Lorraine. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ?
Très bien, merci, et toi ?
Superbement. Et on commence cette semaine avec évidemment Ondulation, mais ce soir, il y a également du théâtre.
Oui, alors déjà, avant de parler du théâtre, on est super content d'accueillir Radio Campus cette semaine au sein du Bouillon. Donc vous êtes les bienvenus. Et donc effectivement, on accueille ce soir en fait du théâtre, une comédie, par l'atelier théâtre de l'IDF. L'IDF, c'est l'Institut français. Et donc on a des étudiants étrangers qui viennent présenter une pièce de théâtre, donc en français, une pièce de théâtre qui s'appelle Le dortoir de l'hôtel Bellevue. Donc il va se passer pas mal de choses. Pas mal d'étudiants qui vont se retrouver au sein d'un hôtel, dans un dortoir d'un hôtel. Il y a des clans qui vont se former. C'est une pièce de théâtre plein d'humour et ça va être vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à venir ce soir, c'est 20h30 et c'est gratuit pour tout le monde.
Et cette programmation s'inscrit dans la programmation spéciale Le Grand Bain du Bouillon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette programmation rapidement ? Quelles sont les autres dates à venir ?
Les autres dates à venir cette semaine, c'est les dates Radio Campus.
Les dates Radio Campus avec Ondulation, on va en parler dans quelques minutes à l'antenne. Je crois qu'il y a Zoltan aussi qui est en train de se préparer dans le hall.
Tout à fait. Donc Zoltan, du Charles Zoltan de l'ESSEC, du coup, et Estelle Cala sont nos artistes résidents pour la résidence artistique sur le verre. Et effectivement, ils sont en train d'installer en fait l'exposition de verre et d'ombre qui sera en fait en place d'ici ce soir et que tout le monde pourra venir admiré jusqu'au 4 mai dans le hall du Bouillon.
C'est merveilleux tout ça. Où est-ce qu'on retrouve toute cette information, Lorraine ?
Alors, sur nos réseaux sociaux, sur le site internet lebouillon.fr et puis bien sûr au Bouillon directement en venant parler avec l'équipe du Bouillon puisqu'on est toujours là pour accueillir les gens dans la joie et la bonne humeur.
Et cette programmation du Grand Bain, elle continue jusqu'à fin mai. On aura l'occasion au cours des prochaines semaines de découvrir cette programmation à l'antenne de Radio Campus le mardi à midi. Merci beaucoup Lorraine. Merci à toi. Dans quelques minutes, ils sont déjà avec moi, nos invités. On a l'Université d'Orléans avec Arnaud Moisard et Frédéric Moile. Donc Frédéric Moile du guichet de l'aide, Arnaud Moisard sur le dispositif PAN et Benjamin Cadon de la Labo Média. On parlera tout à l'heure dans quelques minutes sur notre antenne de précarité numérique. On se dit à tout de suite. Pour l'heure, on découvre le programme d'ondulation qui est préparé, qu'on vous réserve pour cette semaine.
Radio Campus. Ondulation, le festival de création numérique et radiophonique de Radio Campus.
Ondulation par intelligence artificielle.
Du 4 au 13 avril 2023, Radio Campus Orléans lance la première édition de son festival de création radio numérique.
Ondulation.
Entre ateliers radio, débats, journées d'écoute radiophonique, soirées électro et conférences, c'est une programmation hors norme qui s'annonce. Au travers de cette édition d'Ondulation, nous serons amenés à nous questionner sur nos pratiques radiophoniques avec en toile de fond une question. Quel avenir pour nos médias au temps du numérique ? Cette année, c'est sous le prisme de l'intelligence artificielle que nous animerons Le Bouillon, ce lieu emblématique de la culture sur le campus Orléans.
Ondulation
est soutenue par la région Centre-Val de Loire dans le cadre des Human Tech Days, l'Université d'Orléans, Le Bouillon et le Crous d'Orléans Tours. Plus d'infos sur le www.orléans.radiocampus.org.
Ondulation at intelligence artificielle.
Au programme, le 6 avril, atelier créatif number one. Réalisation d'une fiction radio écrite et réalisée grâce à l'intelligence artificielle dans les studios de Radio Campus. De 18h à 21h, le 6 avril. Atelier créatif number two. Fabrication de postes récepteurs FM DIY. au bouillon. Quoi ? Tu n'as pas de poste FM chez toi ? Et ton téléphone ne capte pas non plus le meilleur des ondes de Radio Campus ? On va y remédier. À vous faire à souder, écarte ta puce, écoute Radio Campus avec un poste radio que tu auras fabriqué toi-même. De 18h à 20h, le 11 avril au bouillon, l'inscription pour les ateliers est vivement conseillée. Rendez-vous sur notre site web orléans.radiocampus.org pour vous inscrire.
Undulations, le festival de création numérique et radiophonique de Radio Campus.
Mardi 11 avril, à bâton rompu, spécial numérique, en direct des ondes du 88.3 FM. À l'antenne depuis plus de 20 ans, Hassan présente cette émission d'actualité et politique tous les mardis de 19h à 20h sur les antennes de Radio Campus Orléans et de Radio Campus Tours. Il vous donnera rendez-vous sur nos fréquences pour une émission spéciale autour du numérique, le 11 avril de 19h à 20h. Le 12 avril, c'est une conférence que vous propose au bouillon les journalistes et l'éducation face à l'intelligence artificielle. On y parlera deepfaking, fiction versus réalité, accès à l'information avec ChatGPT, algorithme et ChatGPT, menace pour la profession journalistique ou aubaine. Ce sera à 18h cette conférence, le 12 avril, au bouillon.
Ondulation, le festival de création numérique et radiophonique de Radio Campus.
Et le jeudi 13 avril, nous vous convions à une journée d'écoute radiophonique sur le campus. Radio Campus s'installera devant le bouillon pour une après-midi chill avec des transats et les pieds dans l'herbe à l'écoute d'une sélection de programmes produits durant l'année par les bénévoles étudiants. Sieste électronique pour des mix futuristes, ambiants ou oniriques. Et puis il y aura également la diffusion des enregistrements réalisés pendant l'année et la restitution de la fiction radiophonique.
Ondulation, intelligence artificielle.
Et le 13 avril, la soirée électro au bouillon vous est proposée à la fois par Radio Campus et par Poly DJ. C'est comme ça que se terminera notre festival Ondulation avec des DJ sets électro-futuristes pour danser toute la nuit. Enfin, jusqu'à 23h30. Alors, du mardi 4 au jeudi 13, Écoute ta fac vous propose également des éditions spéciales numériques en direct depuis le théâtre du Bouillon avec des invités liés au numérique venant du territoire local, de l'université, de la région, des associations locales et étudiantes. Ce sera donc tous les jours du mardi au jeudi 13, de 12h à 13h. Et puis, on vous propose également la capsule temporelle, un dispositif d'enregistrement immersif qui est dans le hall du bouillon, qui reste toute l'année et qui continuera en fait à nous donner votre vision du futur. Vous rentrez dans la cabine, vous vous enregistrez et puis nous, en fait, après, on en fait des petits montages et des fictions radiophoniques. Et la capsule temporelle fait appel à l'imaginaire des voyageurs et voyageuses dans une fiction radiophonique qui les invite à s'exprimer, à raconter leur version du futur dans un combiné téléphonique venant tout droit du passé.
Ondulation, le festival de création numérique et radiophonique de Radio Campus.
Alors, pour récapituler,
Ondulation,
à intelligence artificielle, le festival de la création numérique et radiophonique de Radio Campus vous donne rendez-vous jusqu'au 13 avril sur le campus d'Orléans, un événement qui est organisé dans le cadre du festival étudiant Le Grand Bain du Bouillon et de l'Université d'Orléans et des Human Tech Days de la région Centre Val de Loire avec le soutien du Crous d'Orléans Tours et de l'Université d'Orléans. Plus d'infos sur le www.orléans.radiocampus.org.
Ondulation, le festival de création numérique et radiophonique de Radio Campus.
I'm Afraid, Sexy Sushi, qui est composé également de Rebecca Warrior, qu'on connaît également via le groupe Mansfieldia, qui a joué son dernier concert à Paris, c'était il y a quelques mois. Vous êtes toujours dans Écoute ta fac pour cette édition spéciale d'Ondulation. Il est midi 12.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Et comme promis, on continue cette émission en parlant ce midi de précarité numérique. Autour de moi, sur cette table, nous avons donc Frédéric Moile. Bonjour.
Bonjour.
Frédéric, tu es chargé de mission de lutte contre la précarité étudiante, donc la précarité de manière globale, et donc ça inclut la précarité numérique, au guichet de l'aide de l'Université d'Orléans. Donc le guichet de l'aide, c'est accompagnement individualisé des étudiants. Avec nous également Arnaud Moisard, tu es accompagnant numérique des étudiants au travers du dispositif PAN, et également avec nous Benjamin Cadon de la Labo Média. Alors comment est-ce qu'on peut te présenter au sein de la Labo Média, Benjamin ?
Je suis coordinateur, directeur, dictateur, je ne sais pas trop.
Voilà un peu tout ça, Dieu, l'éminence sur Terre du numérique tout puissant également, je pense qu'on peut dire ça.
Au moins.
Voilà, et tu as un historique qui est très lié à la Labo Média, également à Radio Campus et à plein d'autres structures ici à Orléans. Voilà, tu es un des fondateurs de Radio Campus Orléans.
Oui, ce qui ne me rajeunit pas.
Mais... Ce qui ne te rajeunit pas, voilà, parce que c'est vrai que l'année prochaine, on va fêter nos 30 ans. Mais aujourd'hui, tu n'es pas là pour te souvenir, quoi qu'on peut se souvenir, des débuts de Radio Campus, mais tu es là pour parler de précarité numérique, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous êtes tous autour de cette table, donc liés à cette thématique. Vous avez des actions qui sont mises en place sur vos différents territoires. Donc, la Labo Média, donc, c'est en centre-ville. Les locaux de la Labo Média, c'est donc... dans le 108 de la rue de Bourgogne et donc l'Université d'Orléans évidemment sur le campus. Déjà on a un guichet de l'aide, on a un dispositif PAN. Alors c'est quoi le guichet de l'aide, c'est quoi le dispositif PAN, c'est quoi la différence entre les deux, Frédéric, pour le guichet de l'aide?
Alors le guichet de l'aide, c'est accompagnement individualisé des étudiants, c'est vraiment une prise en charge, on va dire, des étudiants, quelle que soit leur précarité. Donc c'est pas que le numérique, il y a aussi tous les problèmes financiers, les problèmes de logement. Donc ça couvre vraiment tout le spectre de l'alimentaire jusqu'au numérique. Donc dans les actions qui sont organisées, l'idée du guichet de l'aide dès le départ, c'était un lieu où les étudiants en fait, pouvaient solliciter sur n'importe quel sujet. Donc ça nous sert aussi de baromètre pour connaître un petit peu les problématiques des étudiants. Et dans les problématiques récurrentes qu'on voit apparaître tous les ans maintenant, puisqu'on leur demande quelles sont leurs problématiques à chaque fois qu'ils passent au guichet, auquel ils sont toujours bienvenus, le numérique arrive dans le peloton de tête, on va dire, avec le logement en particulier. Et donc ça fait partie des grosses, grosses problématiques des étudiants.
Comment on explique qu'il y a autant de précarité au numérique ?
Alors, il y a beaucoup de précarité au numérique parce que c'est devenu un outil indispensable pour faire des études supérieures. On ne peut pas s'en passer maintenant, c'est strictement impossible. Et les niveaux sociaux, on va dire, en général, des étudiants qui poursuivent leurs études dans le supérieur sont assez variés. Il y a de plus en plus de gens issus de milieux plutôt défavorisés et qui donc arrivent à l'université sans ordinateur, c'est l'exemple typique. Du coup, voilà, alors on essaye de les accompagner avec plusieurs dispositifs qui ont été mis en place justement pour pallier à ça. C'est un petit peu aussi le boulot de notre cher Arnaud à côté. Donc c'est l'accompagnement à la fois sur la partie équipement en ordinateur, avec deux dispositifs qui existent qui sont assez complémentaires. Un dispositif qui s'appelle Presto. Donc tout étudiant à l'université qui a pas d'ordinateur pour travailler peut aller simplement demander à ce qu'on lui prête un ordinateur pendant ses études. Et donc pendant toute l'année universitaire, la BU lui met à disposition un ordinateur portable pour qu'il puisse travailler. Donc ça c'est la partie assez agile, c'est assez rapide. En parallèle de ça, il y a une aide à l'acquisition d'ordinateurs portables qui est mise en place, là sur critères sociaux, alors que Presto, il n'y a strictement aucun critère. Tout étudiant inscrit peut demander à avoir un ordinateur. Et donc là, l'idée, c'est de leur permettre de s'acheter un ordinateur avec un accompagnement financier de 100 à 300 euros qui sont donnés aux étudiants pour qu'ils s'achètent un ordinateur portable.
Un accompagnement de 100 à 300 euros.
Voilà. Donc l'idée, c'est que l'étudiant s'achète un ordinateur. Alors on les incite à faire dans le local, c'est-à-dire qu'il y a deux partenaires, Norip et Envie, qui proposent des ordinateurs reconditionnés Donc c'est plutôt intéressant comme démarche, avec des tarifs relativement intéressants. Et donc l'université ensuite leur rembourse jusqu'à 300 € lors de l'achat de l'ordinateur.
Voilà, sachant que même pour 300 €, est-ce qu'on arrive à avoir un ordinateur qui est assez performant ou est-ce que ça reste de l'entrée de gamme ?
Ah non, c'est des ordinateurs reconditionnés, donc c'est des gammes professionnelles. Typiquement, Norip fait des ordinateurs de 250 à 350 euros qui sont de très bonne qualité. Gamme professionnelle en plus. Donc,
Alors qu'est-ce que c'est une gamme professionnelle ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, tous les constructeurs classiques, Dell, HP ou autres, ont en général plusieurs gammes. Il y a des gammes dites professionnelles où les ordinateurs sont censés durer un petit peu plus longtemps, on va dire, pour rester poli. Moins d'obsolescence programmée sûrement, et donc ils sont plus faciles à maintenir. Donc, pour des entreprises comme Norip qui font du recyclage, c'est relativement intéressant. Ils récupèrent des flottes d'ordinateurs portables d'entreprises en règle générale, qui ont des renouvellements assez réguliers, et ils les réparent, les remettent à jour, les réinstallent, et ça permet de les revendre entre guillemets à un prix relativement intéressant.
Et ces ordinateurs professionnels, on ne les trouve pas pour le grand public dans des magasins de numérique ?
Alors en règle générale, dans les magasins grand public, ce n'est pas tout à fait les mêmes gammes. Mmh. C'est-à-dire que typiquement, on trouve du matériel genre Asus ou autre, qui ne sont pas spécialement sur des gammes pro. Et même chez certains fournisseurs comme Dell, par exemple, il y a plusieurs gammes différentes avec une gamme dite professionnelle qui sont dans des catalogues un petit peu, en général, pour les entreprises.
Mmh. Donc, à l'Université d'Orléans, on peut avoir cette aide à l'acquisition. Elle est pour qui, cette aide à l'acquisition de 100 à 300 euros ? Elle est pour tous les étudiants, toutes les étudiants ?
C'est vraiment sur critères sociaux, cette aide à l'acquisition. Donc, il y a le dossier des étudiants est analysé et en fonction de ses revenus ou de son reste à vivre, pour être précis, il aura une aide qui va de zéro si on considère qu'il a suffisamment de revenus pour s'en acheter un tout seul, jusqu'à 300 € s'il a des revenus faibles. Mais là, il y a une évaluation sociale. Presto, c'est complètement indépendant. Il n'y a pas d'évaluation sociale.
Donc, le prêt d'ordinateur dans les bibliothèques universitaires, c'est ça, le Presto ?
Tout à fait, oui. Alors, ça passe par les bibliothèques universitaires. L'idée est assez simple. C'est un étudiant qui n'a pas d'ordinateur personnel pour travailler. Sa demande est remontée soit par un enseignant ou sa scolarité d'inscription. S'il est inscrit en sciences, il passe à la scolarité des sciences. Les demandes sont remontées au niveau central et ensuite c'est transmis au BU qui envoie un mail pour convoquer l'étudiant en lui disant venez récupérer votre ordinateur tel jour à telle heure. Donc ça fonctionne très très bien, ça fonctionne exactement comme les livres. Donc il y a un code barre qui est scanné pour dire qu'on a emprunté l'ordinateur et on le rend à la fin de l'année.
C'est à la fin de l'année, donc c'est vraiment sur une période d'une année, on n'est pas sur un prêt au quotidien ou à l'hebdomadaire. Est-ce que ça existe aussi, par exemple, pour les personnes qui auraient besoin d'ordinateur juste le temps d'une semaine ?
Ah, tout à fait, c'est assez courant. Justement, Presto est fait pour ça. Quelqu'un qui a un ordinateur qui tombe en panne, qui est en réparation, il demande un Presto juste pour une semaine, il le rend au bout d'une semaine quand il récupère son ordi. Donc c'est vraiment ultra souple au niveau du mode de fonctionnement. Et en fonction des besoins, on peut aussi... certains étudiants se retrouvent malheureusement en stage sans ordinateur avec l'entreprise qui ne fournit pas le matériel pour le stage. Dans ces cas-là, on prolonge le prêt sur la période estivale, juillet-août, quand ils sont en stage pour qu'ils puissent continuer à travailler.
Bon, une fois qu'on a la machine, faut-il encore savoir s'en servir ? Et c'est là qu'entre en jeu le dispositif PAN avec toi, Arnaud Moisard. Donc, tu es chargé de l'accompagnement des étudiants et des étudiantes sur le numérique. Alors, ça prend quelle forme ?
Je vais, avant de répondre à ta question, je vais compléter les propos de Fred en donnant un chiffre. Parce qu'on a les chiffres de Presto, les ordinateurs sont prêtés sur tous les sites de l'université, pas simplement le campus d'Orléans, mais aussi Bourges, Châteauroux, Chartres, etc. Cette année, on a prêté l'équivalent de 357 ordinateurs. Et il y en a actuellement 258 qui sont prêtés. Ça veut dire qu'on a bien des retours en cours d'année et ce n'est pas forcément des prêts à l'année.
Ça représente environ 1% des étudiants et des étudiantes, vu qu'il y a 20 000 étudiants et étudiantes sur le campus.
18 500.
Et si on compte les antennes, on arrive pas loin des 20 000.
Non, 18 500, c'est avec les antennes.
C'est avec les antennes.
Ouais, en fait, c'est 15 000 sur la source et 18 500 en tout, en comptant tous les campus de proximité.
Donc un peu plus d'1%, on va dire 1,5% d'étudiants et d'étudiantes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient bénéficier de l'aide, qui auraient besoin de bénéficier de l'aide, mais qui aujourd'hui n'en bénéficient pas ?
Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on touche toutes les cibles de nos publics et tous les besoins sont couverts? Là, c'est plus un problème de communication de l'information auprès de l'étudiant. Et ça, c'est une vraie question. Donc, on n'a pas la certitude aujourd'hui de toucher tous les publics en demande. On a un parc d'environ 450 machines. Donc, on en a fait 350 prêts cette année. Donc, on a encore une marge, en effet. Les étudiants peuvent encore nous solliciter pour qu'on leur prête un ordinateur pour les sessions d'examen qui arrivent.
Et au travers du dispositif PAN, donc ces étudiants et étudiantes peuvent justement bénéficier d'un accompagnement.
Donc le PAN, c'est le parcours d'accueil et d'orientation numérique qui a été créé en plein Covid, en fait, pour accueillir les étudiants dans une situation un petit peu complexe, avec des outils numériques qui ont été développés et achetés par l'université pour permettre la continuité pédagogique dans le cas des différents confinements, pardon. Le PAN consiste à des cours en ligne qui vont permettre aux étudiants d'appréhender finalement le fonctionnement d'un outil numérique, puis également comment on s'y connecte. Mais il est accompagné d'un tutorat, principalement sur les deux premiers mois de la rentrée, donc septembre et octobre, où d'ailleurs la campagne de recrutement des tuteurs est lancée. Les étudiants qui souhaitent postuler peuvent le faire. Ils trouveront l'annonce sur la page Job étudiant du site web de l'université. Donc ils animeront ces étudiants des ateliers de prise en main d'un ordinateur, par exemple Presto, quand un prêt Presto sera déclenché, parce qu'on s'est rendu compte finalement que tous les étudiants ne sont pas compétents au niveau du numérique. Et qu'on estime, mais c'est un chiffre vraiment à la louche qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, qu'environ 30% des étudiants n'ont pas cette compétence d'utilisation des ordinateurs. On peut s'en apercevoir à travers différents facteurs ou différents chiffres, tout simplement un chiffre qui est assez important. L'université accueille chaque année 2800, en tout cas c'est les chiffres de cette année, étudiants internationaux, massivement qui viennent du continent africain et pour certains n'ont jamais manipulé un ordinateur. Donc il ne s'agit pas simplement de fournir un ordinateur à un étudiant qu'on en fait la demande, mais aussi de s'assurer qu'il sait s'en servir et on l'accompagne pour ça.
Alors justement, tu disais entre 20 et 30% d'étudiants ne savent pas se servir de cet outil informatique. C'est un chiffre qui est en hausse ou en régression comparé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans?
En fait, étonnamment, c'est une question qu'on se posait peut-être pas. Et toutes les questions qui ont été posées ou que nous nous sommes posées pendant le Covid et tous les dispositifs qui ont été mis en place, l'aide ou Presto ou le PAN, finalement, j'ai le sentiment que on aurait peut-être dû les mettre en place bien avant et qu'on n'avait pas peut-être mesuré l'ampleur de la demande. Et je ne saurais répondre directement à ta question parce qu'on manque peut-être de données. On considère que pratiquement la totalité des étudiants ont un smartphone, mais pas forcément un ordinateur. Il est impossible de faire toutes ces études avec un smartphone, mais les compétences pour utiliser un smartphone sont très différentes des compétences qu'on attend pour utiliser un ordinateur.
Il y a beaucoup de monde, par exemple, avec qui j'ai pu échanger, des étudiants, des étudiantes. Parfois, je leur disais, ouvre le menu démarrer. Ils ne savent pas ce que c'est. Cherche dans l'explorateur de fichiers. Qu'est-ce qu'un explorateur de fichiers? Les gens, beaucoup, ne savent pas ce que c'est, puisque justement, l'interface du smartphone, en fait, est dénuée de ces interfaces-là. Et donc, en effet, savoir utiliser un smartphone, c'est pas forcément savoir utiliser un ordinateur.
C'est pas un problème générationnel. Je pense qu'on rencontre ces difficultés aussi chez les personnes âgées, mais on considère, je pense qu'on s'est trompé pendant des années que les jeunes étaient très à l'aise avec la question du numérique. Mais je pense que ça revêt plusieurs problématiques différentes. Ils sont à l'aise avec un smartphone, certes. Encore une fois, je le redis, mais l'usage d'un ordinateur est pas aussi courant pour tout le monde. Il y a des cursus à l'université qui réclament l'usage et l'utilisation de logiciels assez pointus. Pour garantir l'égalité des chances, de toute façon, on n'a guère le choix d'accompagner la totalité d'entre eux.
Parce que justement, la toile de fond, tu l'as dit, c'est l'égalité des chances. On n'est pas tous égaux au début sur la prise en main numérique.
Non, ça c'est sûr.
Et j'avais une autre question, une dernière, et après on passera à Benjamin Cadon de la Labo Média. Est-ce que savoir utiliser une interface, c'est savoir utiliser sa machine?
Qu'est-ce que tu entends par interface, Erwan?
Je crois que Benjamin a envie de réagir. Non, je te voyais te rapprocher du micro. Parce qu'aujourd'hui, on sait toutes et tous utiliser l'interface de notre smartphone, parce qu'on parlait justement des smartphones et des ordinateurs. Pour autant, il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas mettre les mots, beaucoup de personnes, en dehors des étudiants, hein, tu l'as dit, c'est pas un problème générationnel, beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'est une application ou une vague idée. Quand on leur demande la différence entre un navigateur web et un moteur de recherche, beaucoup ne savent pas quoi répondre, justement, quand on parle en plus de code informatique, beaucoup ne sauraient pas citer le nom d'un, ne serait-ce que d'un seul type de langage. Donc justement, elle est là la question, est-ce que savoir utiliser l'interface, c'est savoir utiliser la machine, c'est savoir comment elle fonctionne ?
Alors, c'est une bonne question. Le PAN est associé aussi à un GLPI, c'est-à-dire un système de ticketing. Pour faire simple, c'est un tuyau unique pour lequel, dans lequel les étudiants peuvent écrire un mail et on résout le problème. Donc cette année, je vous donne le chiffre du jour, 4344 emails individuels, ou en tout cas demandes d'étudiants qui posent une question, qui nous posent une question sur le numérique.
Aujourd'hui, 4000 étudiants, rien qu'aujourd'hui depuis ce matin, 4300 ont posé une question.
Depuis le 1er septembre.
Depuis le 1er septembre, 4300 étudiants ont posé une question donc au PAN concernant l'usage du numérique.
Voilà, sur 18500 étudiants inscrits, donc ça représente c'est un pourcentage assez important. Oui. Et l'analyse de ces tickets, de ces demandes, en tout cas de ces emails,
qu'est-ce qu'elle révèle ?
Fait montre qu'il est quelquefois difficile de comprendre la question posée par l'étudiant.
Puisqu'ils n'ont pas les termes pour décrire en fait leur problème.
Voilà.
J'imagine qu'il y a beaucoup l'usage des mots comme le truc, le machin, le bidule. C'est des termes qu'on rencontre souvent. Ça ne veut pas dire grand-chose en numérique, j'imagine,
disons
en informatique.
Il y a une confusion entre le système d'exploitation et le navigateur, il y a une confusion dans les sauvegardes, il y a...
Alors, pour compléter quand même ce que dit Arnaud, il y a quand même eu aussi, et on l'a vu pendant le confinement, une augmentation. C'est devenu... l'écosystème informatique est devenu de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus de logiciels, de travail collaboratif, ainsi de suite, qu'on demande aux étudiants d'utiliser. Il y a le choix qui a été fait de l'université, par exemple, d'utiliser Teams de Microsoft pour assurer la continuité pédagogique, comme tu le disais. Je veux dire, ça demande des compétences particulières. Donc, c'est vrai que, bon, vu l'urgence, on a fait un peu le choix de... Bon, on a choisi l'outil, on l'a installé, maintenant débrouillez-vous pour l'utiliser. On n'a pas eu le temps, entre guillemets, de faire l'accompagnement nécessaire pour apprendre à utiliser ces outils. Et c'est aussi un des rôles importants du travail d'Arnaud et des ateliers qui sont mis en place. On leur demande en fait de maîtriser de plus en plus d'outils dans plein de domaines différents et sans obligatoirement l'accompagnement qui va avec. J'avais en remarque des étudiants qui étaient venus au guichet de l'aide et qui disaient que dans la formation dans laquelle ils étaient inscrits en master, on supposait qu'ils savaient utiliser Excel, sauf qu'ils n'avaient jamais utilisé Excel de leur vie. Et voilà, c'était un présupposé de leur inscription en master en disant « Vous devez connaître Excel, mais on ne leur met pas à disposition de quoi. » Donc, d'où le fait de mesurer ses besoins et qu'ensuite Arnaud réagisse. Donc ça, la mesure, c'est le guichet de l'aide, c'est un bon endroit. Et on a un bon thermomètre, enfin. Et ensuite, Arnaud met en place les ateliers nécessaires.
Alors vous êtes à l'université d'Orléans, tu le disais, hein, vous êtes passé en 2020 pendant le Covid sous Teams de Microsoft. Les ordinateurs qui sont distribués sont sous Windows, j'imagine, ou Linux, il y en a sur Linux aussi.
Alors il y a deux...
Est-ce qu'il y a des Apple ?
Non.
Non, il n'y a pas d'Apple.
Enfin, pas à ma connaissance en tout cas, mais...
Mais majoritairement c'est du Microsoft Windows.
Alors,
ou du Linux ?
En fait, on a 250 PC qui sont sous Windows. Qui font partie du dispositif Presto en prêt. Et on a eu un don de la Fondation Boulanger de 200 Chromebooks qui, eux, sont sous Chrome OS, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés, on va dire.
Il faut un compte Google pour démarrer la machine.
Alors justement, ça pose tout plein de questions. Hein. C'est le grand univers, on va donner le mot, on va le définir ensemble, de tout ce qui est logiciel propriétaire. A contrario, on a les logiciels qui sont open source. Et je me tourne vers toi, Benjamin, puisque à la Labo Média, le open source, le FOSS, Free and Open Software, c'est le cœur de métier, c'est le cœur de la Labo Média. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
En tout cas, c'est dans les valeurs qui nous animent. On a même des logiciels libres, ce qui est un tout petit peu différent des logiciels open source pour pinailler. Et effectivement, dans les bactéries qui constituent notre chère association depuis le début, bah, y a aussi cette logique d'accompagner les gens dans l'usage de ces saloperies de technologies numériques, puisque bah, quelque part, on nous les impose un peu à vitesse grand V, confère la numérisation du service public voulu par l'État. Qui amène aussi d'autres formes de précarité. Alors, bah, chez les étudiants aussi, j'imagine, fortement, et aussi chez tout un ensemble de catégories, d'autres catégories de population, puisqu'effectivement, ça concerne aussi les personnes âgées. Mais chez nous, on s'aperçoit aussi qu'effectivement, il y a des jeunes qui sont un peu en vrac par rapport à ce qu'on demande de faire au quotidien en termes de démarches. Les jeunes, mais aussi des personnes qui parlent mal français ou très peu, qui débarquent en France un peu en vrac. Enfin, il y a tout un ensemble de problématiques qui sont posées par rapport à cette obligation d'utiliser du numérique, qui fait que, bah, effectivement, on peut se préoccuper de la question des libertés logicielles et des libertés numériques. Et on a aussi tout un ensemble d'autres problématiques avant cela qui sont assez prégnantes. Voilà. Alors, la Labo Média essaye d'amener sa toute petite aide, en fait, dans cet océan de 0 et de 1. Donc voilà, on fait un petit peu ce qu'on peut. Et ça nous importe aussi de parler de ces questions de liberté numérique en général et de liberté logicielle, mais qu'on peut transposer aussi sur les libertés matérielles, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas d'ordinateur ouvert et libre dont on connaît la recette d'un point de vue très, très matériel. Alors ça peut paraître un peu abscon peut-être à nos auditrices, nos auditeurs, mais c'est aussi une autre problématique qui peut s'étendre sur la question des données ouvertes et même, prononçons des gros mots, sur les questions démocratiques. Pourquoi ne pas avoir une gouvernance ouverte dont on aurait les tenants et les aboutissants pour être plus citoyen?
Qu'est-ce que ça veut dire derrière cette proposition? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place?
Alors, y a un petit peu les initiatives d'open data, mais c'est aussi tout un ensemble d'initiatives de participation, voilà, qui implique, alors c'est peut-être pas notre sujet aujourd'hui, mais qui implique tout un ensemble de problématiques aussi. Mais disons qu'on pourrait imaginer que, au-delà des élections régulières qu'on connaît bien, présidentielles, très comme, on pourrait imaginer d'autres formes de participation à la politique locale, régionale, nationale, internationale.
Est-ce qu'on pourrait par exemple mettre en place un système, une sorte de site internet gouvernemental, puisque on a vu le gouvernement aime beaucoup avoir plein de sites internet, on pourrait faire des propositions de loi directes aux députés?
Oui, il y a eu des initiatives, notamment dans la constitution d'une des lois sur le numérique, en ce sens, avec une plateforme qui était mise en place par une start-up française. Il y a plein d'initiatives et je regarde pas mal ce qui se fait du côté de l'Espagne et de Barcelone notamment, où il y a un projet qui s'appelle Decidim qui est très avant-gardiste sur ces questions-là. Mais il faut pas... Alors du coup, ça repose d'autant plus, avec d'autant plus d'acuité, la question de la précarité numérique et de l'accès à ces outils. Et puis du temps nécessaire aussi pour pouvoir jouer le jeu de cette participation. Parce que c'est vrai qu'à un moment, ça peut être aussi le fait de personnes privilégiées qui ont le temps de s'informer, de participer, parce que c'est assez chronophage tout ça. Donc voilà, il y a aussi un certain nombre de limites à cet exercice.
Le numérique, l'accès au numérique et la liberté vis-à-vis du numérique, ce sont des outils politiques?
Alors nous, on a tendance à tenir le discours selon lequel les technologies ne sont pas du tout neutres, au contraire, puisqu'aujourd'hui, on sait, on en parlait un tout petit peu avant, qu'elles sont principalement développées par des hommes blancs, plutôt de nationalité américaine, avec une idéologie, un cerveau rempli avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut regarder un petit peu qui produit ces technologies, dans quelles conditions, est-ce qu'elles sont adaptées, situées, maintenables. Et c'est vrai que moi, j'aime bien la parallèle avec la souveraineté alimentaire, qui consiste à penser qu'il faudrait qu'on ait les moyens de produire la nourriture dont on a besoin. Pourquoi pas imaginer la même chose avec les technologies, et donc peut-être avoir des technologies moins évoluées, moins high-tech, mais sur lesquelles on a un petit peu plus prise et qu'on peut maintenir sur un plus long terme, qu'on peut s'approprier et qui sont aussi plus diverses, pourquoi pas.
Tu parlais de la notion de liberté. On aurait tendance à dire qu'aujourd'hui, avec Internet, on est plus libre qu'avant. Ça serait le contraire?
Alors, je vais aussi passer la balle aux personnes autour de la table. On sait quand même depuis, particulièrement Snowden, que liberté peut-être, mais aussi surveillance. Et donc, il y a tout un ensemble de corollaires à cette emprise du numérique qui font que je ne sais pas.
Tu ne sais pas si le web est réellement libre. Mais justement, on a ces logiciels et applications libres. On parlait de open source. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et en quoi c'est plus libre que justement du Microsoft ou du Apple ou les fameuses GAMAM, Google, Amazon, Meta, qui n'est plus Facebook. Donc c'est pour ça que je dis GAMAM et non plus GAFAM. Et on rajoute à cela donc Apple et Microsoft. C'est quoi la différence fondamentale?
Alors avec les logiciels libres, on a un petit peu plus de liberté qu'avec des logiciels privatifs fermés. Donc la possibilité notamment de lire la recette constitutive de ce logiciel, de les distribuer de façon gratuite ou payante, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt chouette de ce point de vue-là. Et ça permet, quand je parlais d'avoir un peu plus d'emprise ou de maîtrise sur ce qui se passe dans son ordinateur, ça permet de un petit peu mieux savoir, quand Microsoft fait une mise à jour, on la subit un petit peu, et puis des fois, elle n'arrive pas au bon moment, et puis il se passe des trucs dans notre ordinateur, on ne sait pas trop quoi. Avec des systèmes d'exploitation libres, des logiciels libres, on peut imaginer avoir un peu plus la main sur ce que fait notre machine qui aujourd'hui est indispensable à notre quotidien.
Tu souhaitais faire réagir les invités ? Est-ce que Arnaud Moisard, est-ce que Frédéric Moll, vous avez des réactions vis-à-vis de ce que vient de dire Benjamin ?
On peut qu'approuver tout ce qui vient d'être dit. Il y a une vraie problématique derrière. D'un côté, on oblige finalement les gens, on le voit pour beaucoup de services administratifs qui sont fermés, remplacés par des sites internet, à utiliser le numérique dans leur vie quotidienne. Ça doit être accompagné, me semble-t-il. Et sur la partie souveraineté numérique, il me semble qu'on est vraiment, vraiment à la traîne de ce point de vue-là. On le voit tous les jours et je peux que cautionner l'utilisation de logiciels open source et en particulier, puisqu'on parle de système d'exploitation, Linux ou autre, c'est un exemple, c'est que ça peut être que bénéfique. La problématique derrière, c'est qu'il y a des enjeux commerciaux importants qui font que souvent les choix qui sont faits au niveau des ministères en particulier sont liés à du lobbying, on le sait, en l'occurrence Microsoft ou Apple ou trois petits points, pour essayer de conserver entre guillemets la mainmise sur beaucoup de systèmes.
Pourtant, je sais qu'il y a le gouvernement qui a mis en place une plateforme de logiciels communs, d'un tronc commun numérique, c'est le nom que ça porte, où justement on peut voir au contraire plein de logiciels libres. Ils en font par exemple la promotion de LibreOffice pour le traitement de texte, VLC pour la lecture multimédia.
Tout à fait, mais le problème c'est bien de faire une liste à la Prévert en conseillant aux gens d'utiliser ça. Mais quand dans les ministères ils choisissent explicitement de continuer à travailler avec Microsoft, je trouve ça un peu... Enfin bon, voilà.
Et si je peux ajouter un mot, c'est vrai que la problématique, elle est même presque plus trop dans les logiciels, mais aussi dans les outils en ligne qu'on utilise au quotidien, alors qu'ils sont aussi des logiciels, mais qu'on installe plutôt sur des serveurs, qu'on fait Microsoft Teams, qui est très... Alors, c'est l'image du nuage où on a l'impression que c'est éthéré, mais ça correspond quand même à des gros data centers qui pédalent ces logiciels pour qu'on puisse y accéder via le réseau. Et aujourd'hui, la problématique, elle est presque plus sur ces services qu'on utilise au quotidien, qui nous sont relativement indispensables, qui amènent aussi une autre couche d'obscurantisme, si je peux le dire comme ça, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces clouds. Et en l'occurrence, à la fois, vous savez que les États-Unis, à partir du moment où c'est une entreprise américaine, a un droit de regard sur le contenu des disques durs et donc de ce qu'on fait avec ces logiciels, ce qui est une première problématique. Et une deuxième, qui est une question économique, où c'est vrai que moi, je préférais qu'il y ait toute une petite diversité de coopératives et d'entreprises dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui se développent pour fournir des services, plutôt que l'Université d'Orléans, mais je parle les collectivités, le conseil régional, tout un ensemble d'entreprises qui finalement donnent des sous à Microsoft, qui est quand même assez fort. C'est pas le meilleur, mais ils sont assez forts pour faire de l'optimisation fiscale. Et du coup, c'est une économie qui s'échappe quelque part de notre pays.
Donc en plus d'un enjeu politique, il y a un enjeu économique et quelque part environnemental. Tu parlais des data centers, justement. Il y a aussi un enjeu qui est social, l'humain au cœur de toutes ces questions. Alors je vous propose peut-être qu'on continue d'en parler après cette page musicale. Je vous propose de continuer donc avec notre programmation. Alors tous les titres que vous allez entendre cette semaine dans ces éditions d'Écoute ta fac spéciale ondulation, c'est une programmation musicale 100% féminine. Voilà, et on en parlera justement du 100% féminin après ce titre de Park Hygiene, Never Die, sur Radio Campus Orléans. I'd like to begin with a fact. Whether in a small town like McAllen on the Rio Grande, or in Chicago, New York, or Los Angeles, it is business, big business.
Never Die de Park Hygiene sur Radio Campus Orléans. Je suis toujours avec Frédéric Moal et Arnaud Moisard de l'Université d'Orléans sur les respectivement les dispositifs du guichet de l'aide et de PAN, et également Benjamin Cadon de la Labo Média. On parle ce midi dans ce écoute ta fac spécial ondulation de précarité numérique. Alors précarité aussi face au sexe et au genre. Autour de cette table, on n'est que des hommes blancs qui plus justement, peut-on parler peut-être rapidement d'inclusion des femmes et des autres, des personnes non blanches en fait, dans le numérique ? Est-ce que vous, dans vos milieux, vous avez des collègues qui sont des femmes ? Est-ce que vous avez des collègues qui ne sont pas blancs ?
Oui. Oui, on a des collègues. C'est vrai qu'il y a une vraie problématique qui s'est accentuée depuis, alors j'allais dire peu de temps, mais une dizaine d'années, on va dire. Une désaffection de manière générale des femmes pour tout ce qui est numérique. Comme je suis enseignant-chercheur en informatique, je le vois évoluer tous les ans, où la proportion de femmes qui font des études d'informatique est en chute libre, en sciences de manière générale, mais en informatique en particulier. Et ça, c'est un mouvement qui a commencé, je dirais, dans les années 2000, quand j'ai commencé à m'occuper d'une formation, quand j'ai pris mon poste. On était dans certaines formations en informatique à 50-50, 50% de femmes.
Donc l'égalité était atteinte ?
Tout à fait, dans les années 2000. Et une dizaine d'années plus tard, on était passé à 20% de femmes. Et depuis, c'est une vraie problématique récurrente. Il y a de moins en moins de femmes qui font des études en informatique en particulier.
Comment on l'explique et comment on peut contrer cette tendance ?
Alors, comment on l'explique ? Je ne sais pas l'expliquer de manière sociologique sur le fait que une désaffection, on va dire, en particulier au moment des choix qui sont faits en sortant du lycée. Je pense qu'il y a une culture, une vision, entre guillemets, de ce que c'est que ce que sont que les métiers de l'informatique qui est assez faussée. Où on a pris l'habitude de voir l'informaticien, c'est comme dans... c'est quelqu'un de plutôt en embonpoint, avec des lunettes, qui mange des pizzas en buvant du coca devant son ordi. Enfin, la figure du geek, on va dire, de manière un peu caricaturale. Et voilà, j'ai l'impression que c'est cette vision-là qui, à un moment ou à un autre, a pris le dessus. Il y a des tentatives d'aller contre avec... pas mal de choses qui sont organisées. La semaine dernière, il y avait Girl Can Code qui était organisée à l'université, avec l'idée justement dès le plus jeune âge d'inciter les femmes à aller vers l'informatique, la programmation et tout ce qui touche au numérique, on va dire. C'est des choses qui ont plutôt pas mal de succès. Donc voilà, il y a des opérations, on essaye de rattraper un peu le truc, mais il y a un mouvement de fond qui est quand même... assez triste de ce point de vue-là. Après, sur les histoires d'origine, sur la couleur ou autre, sincèrement, c'est vraiment un problème homme-femme. Ce n'est pas un problème lié à l'origine, on va dire. Je sais qu'en informatique en particulier, on a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Afrique du Nord ou autres, qui sont très compétents en informatique. Et là-dessus, il n'y a pas trop de problématiques.
Benjamin Cadon de la Labo Média, comment est-ce que justement, quelle cartographie, quelle carte d'identité des bénévoles de la Labo Média ?
C'est vrai que nous, préoccupés par cette question, on a essayé de développer des stratégies, pour employer des gros mots, depuis quelques paires d'années maintenant, en faisant pas spécialement de miracles, mais avec quelques réussites malgré tout. Parce qu'on était un petit peu dans les clichés de l'exercice. Et du coup, dans ces stratégies, ça a été de diversifier un peu les activités. Je sais que chez nous, par exemple, il y a des adhérents qui ont réaménagé des espaces et qui ont... proposer des activités beaucoup plus low-tech, comme la création de fanzines, le tricot, la couture. Alors ça, là aussi, ça peut paraître cliché, mais j'ai en tête une personne qui fait des ateliers, j'en ferai la promo tout à l'heure, tricot tous les jeudis, et qui développe aussi des jeux vidéo artisanaux en même temps. Et donc ça fait un petit peu des portes d'entrée qui font que aujourd'hui on a quand même un peu plus de diversité de genre dans les personnes qui fréquentent nos activités, et je trouve ça plutôt chouette, quand bien même le paysage effectivement reste austère pour plein de raisons culturelles, sociales, de représentation aussi de l'image de ce que sont les sciences, les techniques, l'informatique au plus jeune âge. Donc je fais une page de pub avant de passer la parole à Arnaud sur la Labo Média, qui propose des ateliers ouverts tous les jeudis à partir de 15h, 16h au 108 rue de Bourgogne, avec une diversité d'activités où on propose aux gens de les accompagner dans l'appropriation de ces techniques. Dans les techniques, on met le tricot comme la manipulation de découpe laser ou de petites cartes électroniques comme les Arduino.
Arnaud ?
Alors, je travaille dans un service qui s'intitule le Learning Lab, et pour donner un chiffre précis, donc, dans le domaine de l'ingénierie pédagogique, nous sommes 9 ingénieurs pédagogiques et il y a 7 femmes. Donc là, on est dans un monde qui est beaucoup plus féminin que masculin, dont 2 qui sont de nationalité étrangère aussi, donc, pour répondre directement à ta question. Et à contrario, dans le domaine des audiovisualistes, il n'y a que des hommes.
Alors, les audiovisualistes, donc, les personnes qui sont... Parce que le Learning Lab, du coup, il y a ce côté numérique, informatique, mais également, c'est du Learning Lab dont dépendent les différents services audiovisuels des différentes composantes de l'université.
Captation vidéo et toutes ces activités qui tournent autour de ces activités, montage de vidéos, etc. Et là, on est plus dans un domaine peut-être un petit peu plus technique que l'ingénierie pédagogique. Je ne sais pas, en tout cas, c'est peut-être un sentiment. Et là, on n'a que des hommes à l'université.
À vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mystères parfois sur... On n'arrive pas à expliquer le pourquoi, du comment, de ces différentes proportions. Est-ce que c'est un objet d'étude ? Est-ce qu'il y a des organismes ? Est-ce qu'il y a peut-être des enseignants-chercheurs qui font des études sur ça ? Est-ce que vous en avez eu connaissance ?
En général, c'est plutôt les études de sociologie. Ouais. Après, comme ça a été dit et répété, il y a un vrai problème culturel qui a lieu avant l'arrivée dans les études supérieures. Donc là, on est en train de... Enfin, en tout cas, à l'université, on essaie de rattraper les choses en faisant, par exemple, de la discrimination positive sur des sélections de dossiers. Je sais qu'à un moment, j'étais directeur des études et je m'occupais justement de la sélection des dossiers. Pour 2 dossiers équivalents, j'essayais de privilégier une femme plutôt qu'un homme. Mais bon, voilà, la problématique, elle est vraiment en amont. C'est un vrai problème culturel. De vision des métiers derrière, et c'est compliqué de rattraper des idées reçues qui ont été instillées jusqu'au lycée.
Depuis tout ce temps-là, tu souhaitais réagir, oui. Benjamin ?
Oui, effectivement, dans la continuité. Alors, c'est des questions qui ne sont pas simples. De notre côté, on essaye aussi de mettre en avant plutôt des femmes ou des gens issus de minorités de genre dans la programmation aussi d'animation d'ateliers, de concerts, d'expositions, etc. Donc ça, c'est une attention soutenue qu'on essaye d'avoir pour éviter ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire le white male panel, typiquement.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire un panel avec uniquement des hommes blancs qui vont parler. Bon, aujourd'hui c'est raté, mais voilà, je sais que à Radio Campus c'est aussi une attention particulière. Donc ça, c'est voilà une première chose. Une deuxième, c'est à nouveau une page de pub, puisque nous serons aussi partie prenante des Human Tech Days, je crois, qui encadre un peu tout cet événement, pour habiter une semaine en fait du 18 au 23 juin. Donc là, c'est pas tout de suite, et je crois que je serais tenté de me réincruster à Radio Campus pour en faire la promo. Mais en tout cas, le mardi 19, on fera un éditathon sur les cyberféminismes, pour essayer de documenter aussi, alors plutôt dans l'espace francophone, parce que ça c'est un travail qui a été fait dans l'espace au moins anglophone et un petit peu moins hispanophone, pour documenter des femmes qui ont été importantes en fait dans cette histoire de l'informatique, du militantisme autour des questions numériques, et qui, à la fois dans l'histoire mais aussi aujourd'hui, puisque en me promenant un petit peu à droite à gauche en France, il y a un certain nombre de lieux qu'on appelle des hackerspace ou des hacklabs, dans lesquels il y a aussi des femmes ou des gens de divers genres qui pédalent, qui activent en fait pour essayer de transformer un petit peu ce paysage avec tout le poids historique qu'on vient d'évoquer.
Alors peut-être avant de se quitter sur ces 5 dernières minutes, on peut parler justement de web libre, de logiciels libres, et notamment pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, comment ils et elles peuvent devenir acteurs et actrices d'un web et d'une utilisation numérique plus responsable, puisque notamment à la Laubomédia, il y a toute une suite logicielle qui s'appelle Futurétique qui est mise en place, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres logiciels. Est-ce qu'on peut les citer rapidement ?
Eh ben non, il y en a trop.
Il y en a trop. Où est-ce qu'on peut les retrouver alors ?
Alors, il y a une super asso qui s'appelle Framasoft, qui a fait un boulot historiquement très important en France. Framasoft.org. Et comme ils étaient super successful en quelque sorte, ils ont souhaité lancer le projet Chaton, c'est-à-dire essayer de décentraliser un petit peu la fourniture de services et le fait de pousser la bonne parole. Donc voilà, je vous invite chaton.org au pluriel. Je vous invite éventuellement à vous y intéresser. Et au niveau local, oui, nous on a un petit projet qui s'appelle Futurétique où on essaye de pousser aussi et de proposer ces mêmes services numériques libres et éthiques, avec aussi une problématique écologique qu'on peut peut-être évoquer rapidement. Ouais. Alors la question de ces services, mais c'est, on ne sait pas si les logiciels libres consomment moins d'électricité que les logiciels propriétaires. Peut-être pour revenir un petit peu et boucler avec le début du débat, moi j'ai tendance à penser, et les chiffres le montrent, que la problématique elle est aussi et avant tout sur le matériel plus que sur l'usage. Et donc un des enjeux c'est de réussir à prolonger autant que faire se peut la vie des matériels. Alors les logiciels libres et le fait d'installer un Linux qui est maintenant quelque chose de très très simple à faire sur un ordinateur peut prolonger l'usage d'un ordinateur de longues années. Du coup je pense que les initiatives qu'on a évoquées au début, c'est-à-dire de mutualiser, de mettre en commun un parc d'ordinateurs, de pouvoir accompagner les étudiants sur l'usage, c'est aussi des bonnes façons de moins manger de minéraux, d'électricité, etc.
Il y a tout un mouvement là-dessus. Et pas mal d'associations qui essayent de pousser. Donc le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'aller au 108, discuter avec les gens de Laubomédia, de Chaton, et de voir avec eux en fait ce qu'ils peuvent faire. Le meilleur exemple, c'est l'installation de Linux à la place d'un Windows qui est devenu obsolète sur un vieil ordinateur portable qu'on pensait mettre à la poubelle. Et en fait, on peut prolonger la vie pendant très longtemps d'un ordinateur portable, parce que les ressources demandées par un Linux sont largement inférieures à celles demandées par un Windows up-to-date. Donc c'est une des possibilités pour y arriver.
Et en plus, on évite les virus.
Oui.
Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, justement, qu'il y ait moins de virus sur Linux ?
Alors, il y a tout à fait des virus aussi. L'avantage, c'est que comme la majorité des ordinateurs est installée sous Windows, les gens qui font des virus ont plutôt intérêt à les faire pour Windows. Alors, Linux, c'est quand même, je pense pouvoir le dire, et peut-être que vous m'insulterez, mais plus sûr d'un point de vue général que Windows, où il y a tellement de couches les unes après les autres. Mais c'est un avantage supplémentaire que d'embrasser en fait ces systèmes d'exploitation libres, que de pouvoir se prémunir, car je crois que les attaques redoublent aujourd'hui, et c'est aussi une problématique à laquelle nous sommes soumis quand on accompagne des gens qui se font hameçonner en fait avec les mails. On en parlait en off, apparemment à l'université c'est aussi le cas, c'est un peu la pluie d'hameçonnage.
Un cours sur la sécurité informatique a été construit par mes collègues et qui est en ligne sur la plateforme libre Moodle, qui s'appelle Selen ici chez nous, et qui permet à la fois au personnel de l'université et aussi aux étudiants de comprendre quelques règles et avoir quelques bons réflexes, même si les pirates commencent à être de plus en plus malins.
Avec l'aide d'intelligence artificielle éventuellement pour faire de l'hameçonnage hyper ciblé. Je profite quand même du micro pour à nouveau faire de la promo. Je suis là en mode commercial. Alors parce que c'est vrai qu'on a évoqué toutes les chouettes initiatives côté université pour mettre à disposition du matériel. Du côté de la Laubomédia, avec pas mal de partenaires, on a parlé de Norip, Envie, le CRIA, la ressource à Reboot Informatique, Gatine en Transition. On lance un projet qui s'appelle Ordi Solidaire, qui consistera à donner à des gens qui en ont le besoin des ordinateurs gratuitement sous Linux. Voilà, donc si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Au 108 rue de Bourgogne, tous les mercredis, Manu propose un accueil en fait pour vous accompagner dans ces questions-là. Donc c'est gratuit, hein. Donc je fais de la promo, mais c'est pas cher.
Voilà, toute cette actualité à retrouver donc sur le site de la Laubomédia, c'est labomedia.org. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau de cette émission spéciale d'Écoute ta fac. Je le rappelle, on avait Benjamin Cadon, nom de la Labo Média. Et pour l'Université d'Orléans, Frédéric Moile, ce chargé de mission en lutte contre la précarité étudiante et au guichet de l'aide. Et Arnaud Moisard sur l'accompagnement numérique des étudiants, c'est le dispositif PAN qui s'inscrit également au sein du Learning Lab. C'est bientôt la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Ondulation, c'est encore toute la semaine. On parlera d'intelligence artificielle et notamment de ChatGPT. Ça sera demain soir de 18h à 20h, une émission en public ici au Bouillon. Toute la programmation d'Ondulation, c'est sur notre site internet orléans.radiocampus.org que vous la retrouverez. Ce soir, on vous donne rendez-vous à 19h. Hassan vous donne rendez-vous de 19h à 20h pour une émission spéciale de À bâton rompu. Il parlera d'inclusion numérique, encore une fois, avec l'Université d'Orléans, le directeur du pôle informatique de l'université, Alexandre Tessier, et également avec Aurélien Foucret du réseau numérique. Et ils parleront donc ce soir d'inclusion numérique. Voilà, on en a un petit peu parlé lors de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vos programmes continuent à l'antenne de Radio Campus Orléans avec à 13h Novorama, suivi à 14h des Cahiers de l'Emploi, 15h Le Moulin à Parole. Et enfin, donc je le disais, hein, évidemment, À bâton rompu de 19h à 20h, suivi de Ride On. Et jusqu'à minuit, c'est le catalogue électronique. Voilà, il nous reste 15 secondes pour nous dire au revoir. Peut-être un dernier mot en 15 secondes.
Ça va être chaud. en fait, il y a quand même un... faut rester positif, voilà, malgré quelques problématiques. Il y a plein de mouvements en ce moment. On discute avec le